merci de nous retrouver ou de ne pas nous retrouver d'ailleurs sur les ondes de Radio Galère. Je le signale à ceux qui nous écoutent en direct, donc sur Internet. Les autres, ceux qui sont sur la modulation de fréquence et sur le DAB, ne peuvent pas nous écouter parce que, en raison, disons, de la tempête de vent qui sévit sur Marseille et sa région, notre émetteur a été privé d'électricité. Donc, il n'y a pas d'émission en direct, mais normalement, tout doit repasser en rediffusion jeudi. Je pense que ça sera réparé, en podcast ensuite. Donc, ceux qui sont sur Internet ont le privilège d'être les seuls à nous écouter en direct aujourd'hui. L'actualité est évidemment abondante. Je remercie Yamin, lui, il est là. Il n'a pas été, troublé par la tempête de Mistral, ni par l'état d'ordure qui s'accumule dans certaines parties de Marseille. Je précise dans certaines parties, parce qu'il faut bien expliquer aux auditeurs à qui on doit présenter des images apocalyptiques des rues de Marseille, qu'il y a des quartiers où il n'y a pas de grévistes et où donc les ordures sont ramassées. Et dernière chose qu'il faut préciser, c'est que la mairie de Marseille, qui n'est pas responsable de l'enlèvement des ordures ménagères, puisque c'est une responsabilité de la métropole, a décidé hier, pour des raisons de salubrité publique, de faire enlever ce qui était en dehors des poubelles par des camions. Donc il ne s'agissait pas de remplacer des grévistes, il s'agissait de dire, ben, vous savez qu'un maire est responsable de la santé, de la salubrité, de la santé dans sa commune, et donc la décision de ramasser tout ce qui traînait par terre en abondance a été prise par la mairie dans les secteurs où le ramassage n'était pas effectué. Et par ailleurs, la résolution du conflit n'est pas entre les mains du maire de Marseille, mais entre les mains de la présidence de la métropole qui est en charge de l'enlèvement des ordures ménagères. Bon, ceci est un peu hors sujet international, mais comme Marseille fait souvent parler de lui et que nous y sommes, autant clarifier les situations. Alors, je vais commencer par faire état brièvement d'un document qui a été rédigé par un journaliste palestinien très estimable qui s'appelle Ramsi Baroud dans une revue, états-unienne, et qui fait le bilan de l'année 2021 en Palestine. Et ce bilan est intéressant parce qu'il y a à la fois un mélange d'événements désastreux, c'est-à-dire qu'il y a eu, comme ailleurs, le Covid et que les mesures de difficulté de circulation, le fait qu'Israël ait interdit jusqu'à une certaine date l'arrivée de vaccins, parce que vous savez qu'Israël contrôle concrètement le commerce de la Palestine, puisque la Palestine n'a pas accès au monde extérieur sans passer par le territoire israélien. Et donc jusqu'à l'arrivée finalement d'un premier lot de vaccins russes, donc le fameux Sputnik V, et puis après les vaccins qui sont arrivés dans le cadre du mécanisme COVAX, il y a eu donc le mécanisme de financement collectif, je ne reviens pas là-dessus, il y a eu finalement des vaccins qui sont arrivés à Gaza et dans ce qu'on appelle les territoires palestiniens. Ceci étant, l'épidémie a été sévère et donc il y a eu là, comme ailleurs, des décès et beaucoup de contaminés. Ça, c'est une donnée qui est générale, mais en plus, c'est compliqué, comme d'habitude, puisque le Palestinien, la Palestine, n'a pas accès au marché international sans passer par le filtre israélien. Donc ça joue pour tout, y compris pour un vaccin.
L'apartheid.
Voilà, c'est l'apartheid. Autre nouvelle intéressante, parce que c'est un facteur de changement, il y a eu finalement une quatrième élection législative en Israël, et finalement, Netanyahou est tombé. Donc le monsieur qui avait tout le pouvoir, et qui avait un pouvoir extrêmement fort et autoritaire depuis plusieurs décennies, est sorti du jeu. Alors il s'est mis à la place une équipe un peu composite, on dirait centre-droite, enfin c'est très compliqué de la caractériser sans rentrer beaucoup dans le détail, mais donc pas les mêmes de toute façon, pas le Likoud, et puis avec dans l'équipe gouvernementale, pour la première fois, un élu, ce qu'on appelle les Arabes israéliens.
Ouais. 48. Bon.
Voilà. Donc il y a effectivement il y a un parti qui a eu des élus et qui fait partie aujourd'hui de la majorité gouvernementale. Alors ça, c'est un élément intéressant pour la suite des événements. Ça n'a pas empêché, ça c'est le côté négatif des choses, ça n'a pas empêché les colons, les furieux, le Likoud et toute l'équipe à Netanyahou qui est pas loin dans les coulisses, de continuer et même d'intensifier les opérations de colonisation. C'est vrai aussi. Mais ce qui s'est passé, le plus intéressant et le plus porteur pour l'avenir, c'est l'espèce de reprise de vigueur du mouvement palestinien dans son ensemble. C'est-à-dire que sur la base en même temps d'un échec, puisque vous savez que le président de l'autorité palestinienne, qui n'est plus élu depuis longtemps et dont le mandat est terminé depuis bien bien longtemps, et qui ne tient que parce que Israël, l'ONU et les États-Unis considèrent que c'est avec lui qu'il faut parler, M. Mahmoud Abbas, avait fini, sous la pression des groupes israéliens, des groupes palestiniens divers, à ouvrir des discussions pour qu'il y ait une nouvelle élection à la tête de l'autorité palestinienne, qui, en droit, est le représentant de l'État palestinien. Il faut savoir, on en a parlé à propos de procès à la Cour pénale et autres, il y a un État palestinien qui est reconnu comme un État de droit. Encore faut-il qu'effectivement ses dirigeants ressortent d'un peu de légitimité électorale. C'est pour ça que M. Mahmoud Abbas avait accepté des négociations pour faire des élections dans cette autorité palestinienne. Et puis finalement, il a trahi sa parole, les élections n'ont pas eu lieu. Mais ce que ça a suscité, et c'est ça qui est porteur pour l'avenir, c'est que finalement, tous les groupes palestiniens, vous savez qu'il y a des concurrences très très fortes entre les groupes qui sont à Gaza, principalement le Hamas, d'autres groupes qui sont moins à Gaza mais ailleurs, le djihad islamique, enfin je ne rentre pas dans le détail de tout, voilà, de tous les groupes palestiniens, mais qu'il y a eu une unité d'action, d'abord pour revendiquer l'élection de l'autorité palestinienne, et ensuite pour résister, et c'est ça qui est le plus porteur d'avenir, pour résister aux attaques de l'Israël, de la droite israélienne et des colons, pour étendre encore les colonies, en particulier dans les
surtout
quartiers.
Surtout en détruisant les maisons des Palestiniens.
Voilà. Et en occupant, en essayant d'occuper la totalité des maisons occupées par des Palestiniens dans certains quartiers de Jérusalem. C'est-à-dire, il s'agissait de faire table rase, hein, on les met dehors, on rase et on construit des colonies. Ça, c'est l'événement nouveau qui, pour Ramzi Mahmoud, et je partage son optimisme, est positif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec en plus un redémarrage, une reprise de vigueur de l'organisation de la Palestine, l'OLP, de Yasser Arafat, pour se souvenir, tous les groupes palestiniens se sont unis et la résistance à cette tentative d'exclusion des Arabes de Jérusalem, puisque c'était de ça qu'il s'agitait, a échoué. Donc voilà comment débute 2022, c'est-à-dire un gouvernement israélien qui n'est pas très très fort parce qu'il est divisé entre différents courants, dans un contexte international qui lui est pas très favorable parce que à la fois l'administration Biden a à peine changé de position par rapport à Trump, ils sont moins verbalement agressifs par rapport aux Palestiniens, ils ont des discours un peu plus présentables, mais il n'y a aucun acte qui va derrière. C'est-à-dire la politique états-unienne reste la même, elle a un peu changé de vocabulaire. Donc, de ce point de vue-là, pas de changement. Le changement est dans la réunification de la résistance palestinienne à travers tous ces courants.
Et comme ça, la Ligue arabe, voilà, qui va être en Algérie. Est-ce
en plus.
Que là, parce que l'Algérie a fait appel à la réconciliation
tout à
de toutes les...
Voilà. Alors, effectivement, Habib me fait remarquer, c'est tout à fait juste, qu'effectivement, le congrès, je crois que c'est le terme exact, arabe. Congrès de la Ligue arabe qui doit se tenir à Alger dans le courant du mois de mars, je crois, fait appel à la reconstitution de l'unité palestinienne. Et on peut dire à l'avance, cette reconstitution est en cours. Elle est même bien avancée, alors qu'on est passé par des périodes. Vous savez qu'un certain nombre de groupes de la résistance palestinienne, en fait, laissaient faire Mahmoud Abbas pour ne pas organiser des élections, parce qu'ils disaient, si on fait des élections, à Gaza, c'est le Hamas qui va tout ramasser, et nous, on ne veut pas. Donc, cette concurrence entre les groupes palestiniens était néfaste pour les Palestiniens dans leur ensemble. C'est ça, c'est cette page-là qui est tourné. Et ça, c'est un événement politiquement qui a du poids. Voilà. Donc un élément positif pour démarrer 2022, au moins à cet endroit-là. Et c'est très bien comme ça. Je reste un tout petit peu dans le même secteur pour raconter les étranges rapports entre M. Saad Hariri et la monarchie saoudienne. Alors, vous savez qu'il est envisagé, mais là aussi, on ne sait pas si ça va avoir lieu, des élections législatives au mois de mai au Liban. Tout le monde les attend, mais beaucoup de gens qui essayent d'intervenir ou d'influencer le processus électoral, je pense bien sûr aux États-Unis, mais je pense beaucoup aussi à la France macronienne, voudraient bien que le Hezbollah soit ne puisse pas se présenter ou soit perdre les élections. Alors perdre les élections, s'il se présente, il y a peu de chance. Il faudrait trouver des prétextes pour lui interdire l'accès aux urnes. C'est pas évident. Et donc les relations entre M. Saad Hariri, donc, qui est une créature financée et qui vit la plupart du temps en Arabie Saoudite, alors est financée comme son papa. Il faut savoir que le papa, Rafik Hariri, était un businessman qui travaillait dans le béton, voilà, la promotion immobilière et la construction. que le siège de son entreprise était à Riyad, pas du tout au Liban, et que le gros du travail qu'il faisait, le gros des chantiers qu'il avait, n'était pas au Liban, mais était en Arabie Saoudite. C'était donc un serviteur à la disposition de la monarchie saoudienne. Son fils a hérité de la même position, mais on en est rendu. Mais il a fait quelques erreurs. En particulier, il n'a pas joué la bonne carte dans la succession du roi Abdallah. Alors, c'est un peu d'histoire saoudienne, mais au lieu de parier sur celui qui finalement tient le manche, comme on dirait vulgairement, c'est-à-dire le fils du roi actuel, Ben Salman, il a été en faveur plutôt d'un autre héritier potentiel, parce que c'est très compliqué les questions d'héritage en Arabie Saoudite. Il s'est trompé de cheval, on va dire, dans les paris sur la succession. Et donc Ben Salman, qui maintenant est l'homme fort, lui en tient rigueur. Et donc les rapports sont mauvais, et au point que les Saoudiens disent « on va te couper les vivres », c'est-à-dire « tu n'auras plus d'argent, on ne te donne plus de chantier, etc. »
Sauf si tu... Ils l'ont enfermé.
Voilà, oui, ils l'ont même enfermé. Sauf si tu fais ce qu'on te dit. Voilà, ils sont habitués à ce genre de pratique. Alors faire ce qu'on se dit, c'est « tu vas aux élections au mois de mai, et tu fais la campagne contre le Hezbollah. » Et l'autre dit « ouh là là !» Moi, j'ai pas envie du tout de m'engager là-dedans. Ils entendent qu'il perdra son temps et qu'il n'aura pas beaucoup d'amis autour de lui, y compris dans le reste de la bourgeoisie sunnite libanaise. Et donc, elle est divisée. Alors, il y a effectivement le général Géagéa qui déduit et pour l'optique anti-Hezbollah. Et puis, Saad Hariri qui dit « ça ne va pas être facile, je ne veux pas y aller ». Donc, on reparlera certainement de la situation au Liban qui est confuse, mais qui est liée au rapport particulier entretenu entre l'argent de la monarchie saoudienne et le business dans la promotion immobilière de la famille Hariri. La France, bien entendu, met son nez en permanence dans ce genre d'affaires, puisque vous savez que, entre autres, un certain Jacques Chirac était logé grandement par un certain Rafik Hariri dans un hôtel particulier dont le papa était propriétaire, et les relations se sont poursuivies. On sent que Macron a de très très bonnes relations aussi avec la famille Hariri. Ça ne se perd pas, ce genre de relations. Voilà, pour rester dans la région.
Dis-moi. Il ne se présente pas aux élections.
L'instant, il n'est pas décidé, parce que autant GAGA dit bon, il faut y aller, lui, il dit moi, pour m'affronter au Hezbollah, je ne me sens pas trop. On va nulle part. Donc, effectivement, peut-être les élections n'auront peut-être même pas lieu. Ça sera le seul consensus possible. On ne les fait pas.
Il a demandé même à ses partisans de ne pas aller au
Hezbollah. N'essayons pas. Alors, ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que, du point de vue des Saoudiens, il faut absolument éliminer le Hezbollah du champ politique et du champ militaire, parce que...
Il n'y a pas que les Saoudites.
Tout le monde pense pareil.
Surtout l'Amérique.
Voilà. Et donc, en fait, comme les Libanais ne se sentent pas, et comme un Libanais qui est conscient de la situation du terrain, c'est que le Hezbollah est présent sur le terrain, qu'il a une action sociale, politique, éducative de masse... partout, et qu'en plus il a acquis des capacités militaires considérables, aucun bourgeois libanais ne se sent en capacité d'attaquer le Hezbollah. C'est de l'extérieur qu'on fait pression, rentre-leur dedans, cassez-les et tout, et en fait, objectivement, ils pensent qu'ils n'y arriveraient pas. Donc voilà, je vous fais partager les états d'âme de M. Saad Hariri, qui, rassurez-vous, n'est pas pauvre. Tout va bien.
Je voudrais juste ajouter...
Dis-nous.
Il y a un ministre des Affaires étrangères koweïtien qui s'est présenté au Liban avec les 12 points.
Oui.
Mais tous ces points qu'il a énumérés, c'est contre le Hezbollah. Il faut enlever Hezbollah du...
Tout à fait. Voilà, c'est la ligne, disons, à part les Iraniens, bien entendu, et à part la Syrie, mais c'est la ligne de toutes les monarchies du Golfe, enlever le Hezbollah. Et oui, bien sûr, enlever ce qui gêne et enlever ce qui est porteur d'une autre réalité. Et surtout, pas une monarchie. Le Hezbollah ne défend pas la monarchie. Le Hezbollah est un parti qui est organisé par des religieux chiites, c'est connu, mais il y a dans les militants du Hezbollah des gens qui ne sont pas chiites. Et le Hezbollah protège et a protégé. Moi, j'ai des témoignages qu'on a reçus de certains amis qui étaient allés en Syrie. Le Hezbollah protégeait tous les monastères chrétiens de Syrie.
Ils étaient les gardiens.
Voilà. contre les djihadistes.
Ah, ouais, ouais.
Donc, effectivement, on a affaire à un parti qui est effectivement organisé, fondé sur une base religieuse, qui a une ligne religieuse, mais qui accepte dans ses membres des gens qui ne sont pas de sa confession et qui défend la liberté de conscience des autres.
Oui, et qui ont un projet de société.
Tout à fait. Oui, oh, voilà. Ouais. Donc on est dans une situation qui ne peut que déplaire à tous ces monarques pleins d'argent et sans aucun contrôle démocratique de leur population. Voilà. C'est clair et ça va rester longtemps comme ça. C'est pour ça que je ne prends pas de pari sur la possibilité d'élections législatives au Liban au mois de mai. À mon avis, là, les affaires ne seront pas mûres.
Ouais.
Et puis le Hezbollah ne se laissera pas faire. Et les autres, de toute façon, ne savent pas comment se débarrasser de lui. Et c'est une affaire difficile dans tous les cas. Ceci dit, l'autre jour, on pensait parler, mais je ne sais pas si tu as eu plus de détails, Habib, des risques, des tentatives de bombardement, est en Syrie, d'un barrage sur l'Euphrate.
Ouais. Ouais.
Alors, il faut savoir. Alors, l'Euphrate, vous savez qu'il y a deux fleuves qui sont fameux dans la Mésopotamie historique, qui sont le Tigre et l'Euphrate, qui ont deux cours séparés et qui se rejoignent presque à quelques dizaines de kilomètres du golfe arabo-persique, hein, au niveau de la ville de Bassora, dans ce qu'on appelle le Chott el Arab. Donc c'est un énorme delta d'une cinquantaine de kilomètres de long et autant de large. Mais l'Euphrate donc, a un cours qui lui fait en gros traverser la Syrie et le Tigre a un cours qui lui fait longer la frontière de la Syrie et de l'Irak.
Ouais.
Mais ces deux fleuves ont leur source en Turquie.
Ouais.
Dans la Turquie de l'Est. Et il faut savoir que la Turquie ne s'est pas embarrassée, elle a le droit de le faire, pour faire des barrages, et que la Turquie est en capacité, si elle devenait folle, c'est-à-dire de faire mourir la Syrie et l'Irak de soif. Sans compter l'arrosage des champs, etc. Bon. Ça ne s'est pas fait. Mais il y a de ça, donc, 15 jours ou 3 semaines, il y a un général américain qui s'est mis à bombarder autour du plus gros barrage qui est sur l'Euphrate, sur le territoire syrien. Bombarder un barrage de cette taille-là, alors on connaît la taille, la longueur de la retenue, la hauteur du débit, c'est en cas de destruction du barrage. Alors nous, la France a vécu ça en tout petit avec le barrage de Malpassé à côté de Fréjus.
Bien, ouais.
Mais le jour où le barrage casse, vous avez affaire à un mur d'eau, c'est-à-dire un tsunami qui arrive et qui, dans les premiers kilomètres, détruit tout. Et puis après, ça inonde tout le reste. C'est-à-dire qu'une destruction d'un barrage au cours de l'Euphrate en Syrie, c'est des dizaines, voire des centaines de milliers de morts dans la journée. Et il n'y a rien à faire. Une fois que c'est cassé, c'est cassé. Bon, ce général américain qui a raté son coup, heureusement, on lui a dit, mais est-ce que vous allez lancer un objectif dramatique, c'est-à-dire c'est faire mourir, décider de faire mourir 10, 20, 50 000 personnes. Il a dit qu'il avait le droit, l'autonomie de décision sur ce genre d'affaires. Ça s'est arrêté là, mais je signale que des officiels américains et des officiers généraux qui se permettent de tenir ce genre de raisonnement en disant « j'ai le droit » sont des fous furieux, qu'il faudrait enfermer. Clairement.
On a peur qu'ils appuient sur le bouton atomique.
Ben voilà. Ça, je voulais... Et puisque j'en suis dans les catastrophes naturelles, on va les éviter. Un mot, ça, vous avez tous vu, je pense, des images très, très spectaculaires sur l'éruption du volcan sous-marin de l'archipel des Tonga. Alors, la puissance de l'éruption... Et vous avez vu des images avec l'espèce d'énorme champignon qui s'élève. La puissance, pour vous donner une idée, c'est une centaine de fois les bombes atomiques les plus puissantes. Donc la nature est capable de faire mieux que nous ou pire que nous. Mais ce qui va être intéressant à suivre, c'est le nuage de poussière qui va s'en suivre, parce qu'il est commencé. Il va s'étendre, il peut s'étendre sur la planète entière, c'est une question de vent et de durée. Et on a là une espèce de répétition en vraie grandeur de ce que serait une guerre nucléaire, c'est-à-dire un nuage de poussière qui couvrirait et qui empêcherait la lumière du soleil d'arriver pendant un certain nombre de mois sur la Terre, qui empêcherait les moissons de germer, qui empêcherait les arbres de faire des bourgeons, etc. C'est ça aussi.
C'est la catastrophe.
Voilà. Bon, mais c'était une façon de dire que c'est pas bien, quoi. Vous avez compris. Et on va maintenant parler de ce qui se passe dans le précaré français en Afrique sahélienne ou subsaharienne, comme on dit. Et on va comment là on vous, je rentre pas dans, on va reparler des détails au jour le jour, parce que c'est une situation très chaude qui évolue jour après jour. Vous entendez des nouvelles pratiquement à longueur de journée là-dessus. Mais je vais commencer par revenir un tout petit peu en arrière. Ça se passe jeudi dernier. Et vous avez donc, on va écouter, une partie de l'interview de M. Abdoulaye Diop, qui est le nouveau ministre des Affaires étrangères du Mali, qui est interviewé par RFI, donc sur une chaîne télévisée française. Et on l'entend. Alors, j'insiste sur le fait que vous allez avoir affaire à un monsieur qui répond en tant que diplomate et en tant que ministre très calmement à toute une série d'attaques, disons à fleurer moucheté, mais de journalistes qui voudraient bien lui faire dire des choses qui fâchent et qui le mettraient en mauvaise position. Et vous allez voir la capacité de ce monsieur, qui est un diplomate affirmé, pour ne pas se laisser prendre dans tous les pièges que le journaliste lui tend. Voilà, on écoute M. Abdoulaye Diop.
Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsable, prise par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction ?
Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate, de la trempe de M. Le Drian, qui parle au nom d'un grand pays, la France. Ce sont des propos empreints de mépris, ce sont des propos que je condamne, qui sont inacceptables, et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Un, il ne s'agit pas de questions irresponsables. Ce que nous essayons de faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises, et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Et la France, même sa présence, est gouvernée par un traité de défense qui nous lie avec la France. Et ensuite, un protocole a été conclu en mars 2020 qui permet d'inviter d'autres partenaires européens en dehors de la France ou non européens à se joindre à la force Takuba. Et dans ce cadre-là, le Danemark n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami qui soutient beaucoup le Mali en matière de coopération, mais toute présence étrangère au niveau du Mali doit répondre aux règles maliennes, doivent aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali, surtout pour la présence de forces étrangères. Je suis en Europe ici. J'imagine que si je n'ai pas de visa, je ne peux pas entrer en Europe. Je crois que nous devons tous nous respecter et respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations, que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins hostile et moins empreinte de mépris vis-à-vis des autorités maliennes qui incarnent aujourd'hui la souveraineté de notre pays.
Alors, on va revenir hein, sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez de mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris ? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako ?
Le Mali n'exclut rien de la table si la souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que Paris nous respecte en tant que pays. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. D'ailleurs, il n'y a pas de problème entre les peuples français et les peuples maliens, mais l'attitude des autorités françaises doit changer pour prendre en compte cet élément, qu'il y a des autorités responsables au niveau du Mali et que seul un engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali. Et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles, ne violent pas la souveraineté du Mali et prennent en compte l'intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État, mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens, que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela. Et je salue d'ailleurs la décision sage des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie, et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'ensemble de nos partenaires pour la sécurisation du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région.
Alors ce vendredi, monsieur le ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation.
Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias, et que si ce type de questions sont en discussion, nous sommes tous des diplomates, il y a des canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les insultes doivent cesser pour donner la place à un engagement réaliste, un engagement constructif entre responsables pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons, qui sont des défis sécuritaires.
Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France. Les ponts sont coupés pour l'instant ?
Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Vieille nation de tolérance et de dialogue, nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était à New York, on a eu un entretien franc et direct, et nous restons toujours ouverts. Je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement, M. Le Drian ou d'autres responsables français, on ne les entend plus sur les médias parlant du Mali, et que d'avoir vraiment un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises en avant liées au respect de la démocratie, au respect des droits de l'homme, à des coups d'État. Non, le Mali est puni parce que les choix politiques des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Je crois que nous devons pouvoir sortir de ça, parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le sens de ses intérêts, elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses intérêts. Non, cette politique des deux poids, deux mesures aussi doit cesser.
Vous pensez au Tchad ?
Je ne pense absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de deux poids, deux mesures, et de la France et même de nos organisations africaines. Et je crois que ceci ne va pas dans le sens de pouvoir répondre aux attentes aujourd'hui des peuples africains et des peuples maliens. Je crois que la France et les autorités françaises, comme les autorités européennes, je crois qu'ils doivent davantage écouter ce qui se passe sur le continent. Le ressentiment et l'exaspération des uns aux autres par rapport à une certaine politique, je crois qu'il faut écouter. Nous-mêmes, dirigeants africains, nous devons davantage écouter ce qui se passe dans les rues africaines, dans les maisons africaines, où les gens demandent un changement de politique, plus de respect, et plus d'engagement dans un esprit d'un partenariat gagnant-gagnant, moins de paternalisme et de condescendance, malheureusement, que nous voyons au quotidien et que nous dénonçons.
Monsieur le ministre, vous dites que vous réservez votre réponse à la demande de la Norvège, du Portugal et de la Hongrie d'envoyer des soldats sur votre sol. Est-ce à dire que vous allez dire non à leur demande ? Est-ce à dire que, parlons franchement, Takuba, c'est fini ?
Ce que nous pouvons dire, nous ne disons pas non. Le Mali apprécie les contributions de l'ensemble des partenaires pour la sécurisation de la région. Et le Mali souhaite que tous les partenaires qui sont en mesure de contribuer à la paix et la sécurité de la région, dans le cadre de notre vision de la sécurité, puissent venir. Ce que nous n'acceptons pas, c'est que ces présences soient contraires à l'intérêt du Mali. Et ça, nous ne l'accepterons pas. S'il y a aussi des soutiens, que ces soutiens tiennent compte de la politique de défense de nos pays, mais aussi de ce dont nous avons réellement besoin. Nous avons exprimé des besoins. Si des partenariats ne s'inscrivent pas dans ce cadre, je pense que nous n'hésiterons pas à dire non. Nous avons des dialogues avec chacun de ces partenaires. Nous sommes dans un processus de réévaluation de l'ensemble de ces partenariats. et nous aurons un dialogue avec les uns et les autres par rapport à cela. Et le moment venu, le président Goïta ou le gouvernement déterminera quel partenariat nous semble être adapté. Mais nous ne sommes plus dans la situation d'accepter n'importe quoi.
Voilà, alors, cette interview se poursuit beaucoup plus longuement. Pour ceux qui voudraient écouter, donc vous tapez Abdoulaye Diop et vous aurez tout de suite accès à l'interview dans son intégralité. Mais j'ai sélectionné ce début d'interview pour la qualité du ton et de l'approche de ce ministre. C'est-à-dire qu'il a rappelé, à M. Le Drian et à celui qui le commande, M. Macron et M. Castex, éventuellement, s'il s'occupe de ces affaires-là, que la politique, dans les relations entre États, ne se fait pas à coups d'invectives télévisées ou de caricatures télévisées. Et surtout pas dans la bouche d'un ministre des Affaires étrangères qui est censé faire de la diplomatie, c'est-à-dire de discuter, de rencontrer, et pas du tout d'admonester publiquement en disant « ils ont tort, ils ne devraient pas faire ci, ils ne devraient pas faire ça ». Or, c'est cette ligne-là qui est suivie par la diplomatie française et par le président de la République, c'est-à-dire annoncer des choses, prendre des positions, trancher, caractériser, condamner, se moquer d'eux, etc. Je rappelle que M. Macron, je le rappelais la semaine dernière, n'a pas hésité à humilier publiquement le président sortant du Burkina Faso. Et donc, il le traitait comme un serviteur à qui on dit « maintenant, tu t'en vas du milieu, hein, on t'a assez vu ». C'était ça. Ouais. On l'a assez vu, il est parti, mais c'est l'armée burkinabé qui l'a...
Roselyne. Oui, non, je voulais juste peut-être rappeler que le fils de M. Le Drian à oui. des affaires au Mali et qu'il me semble qu'une enquête a été ouverte à ce sujet au Mali.
Tout à fait.
Voilà. Donc il ferait mieux de rester un petit peu tranquille, ce monsieur.
Alors, le fils de M. Le Drian n'est pas un barbouze, c'est pas comme le fils de Mitterrand à l'époque. Simplement, il profite des relations de son papa pour faire des affaires, puisqu'il est dans une affaire qui, en particulier, le gouvernement malien avait confié à son entreprise la fabrication donc des papiers d'identité. Passeport biométrique. Voilà. Ouais. Et donc, il s'agit là, carrément d'une malhonnêteté, enfin, profiter de la situation du papa pour faire ses affaires. Bon. Ça grandit pas la France, ça grandit pas le Quai d'Orsay, ça grandit pas M. Le Drian. Et comme les Africains qui acceptent de travailler avec la France voient ça, ils n'ont pas une très grande idée de la France. Ils disent finalement, pour bien s'entendre avec le gouvernement français, il suffit de payer le fils machin et le fils truc et d'inviter Madame Chose à tel et tel. C'est plus comme ça que ça fonctionne.
Oui, hein.
C'est plus comme ça que ça fonctionne. On a affaire à des gens formés, compétents, dignes, et donc il faut les respecter en tant que tels, comme on respecte, avant tout, pourquoi on respecte aussi bien les Tchèques, les Bulgares, etc. Ben, c'est pareil. C'est pareil, et c'est cette idée-là qui est en train de changer. Et le discours de M. Abdoulaye Diop, il est intéressant, parce que ce ton-là, le ton de la France donneuse de leçons sur les droits de l'homme, ce ton-là n'est plus acceptable. Il ne passe plus, et même, il n'y a pas d'hostilité. Regardez comme il est tranquille. Il dit, mais arrêtez. Hein. Vous parlez la langue d'un ancien âge, d'un temps révolu.
Oui.
Et ça, c'est une de mes caractéristiques. C'est la façon dont je lis la présidence Macron. C'est-à-dire, le président le plus jeune de l'histoire de la République tient le discours le plus vieux, le plus éculé.
C'est ça.
Il est d'un autre temps et il a simplement une allure de jeune. C'est tout. Mais dans la tête, il est porteur de toute une idéologie qu'il a acquise peut-être chez les jésuites à Amiens ou je ne sais où. Mais ce temps-là est fini. Ce temps-là est fini.
Oui.
Mais son comportement n'est pas susceptible de changement, à mon avis, puisque la semaine dernière, on va y revenir après, il est intervenu sur le dossier ukrainien d'une façon qui laissait croire qu'il était le sauveur du monde. Bon, ce n'était pas du tout le cas, mais je vais y revenir. Bon, on va finir cette séquence africaine par une petite chanson d'Alpha Blondy Roselyne Todeline de la tête, mais en même temps, il y a des chansons où il parle quand même de la situation des Africains et de la façon dont la France les traite. Mais effectivement, on sait par ailleurs,
oui,
où tu le dis.
Oui, il change selon
voilà,
le vent.
Voilà, les engagements politiques de M. Alpha. Mais ses engagements dans la chanson, enfin, les thèmes qu'il aborde sont des thèmes tout à fait acceptables de notre point de vue. Voilà, on écoute Alpha Blondy.
La vraie souveraineté, c'est d'avoir un président honnête et pas marionnette.
fatigué des indépendances cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. La combine commence par une confusion. Transfert de compétences ou indépendance. Vous profitiez de notre ignorance. Vous profitiez de notre ignorance. Tandis que nous dansions votre cha-cha-cha. Vous contrôliez notre CFA. Vous contrôliez notre CFA. On est fatigué des indépendances cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. On est fatigué des indépendances cha-cha. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. Vous vous êtes accaparé de notre CFA. Pillez tous nos etc.
50 ans de zigzag, zigzag politique. 50 ans d'esclavage, esclavage économique.
Les centres centrales de la BCAO ont à Francfort et non à Bamako. Les décisions de la BEAC sont prises à Francfort et non, 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 au Congo. Et ça, c'est pas rigolo. Et je dis pas du tout rigolo. On est fatigué de danser. On est fatigué de danser votre cha-cha-cha là. C'est quoi cette indépendance là?
On est fatigué de danser votre cha-cha-cha. Cinquante ans de zigzag,
zigzag politique. 50 ans d'esclavage, esclavage économique.
On ne va pas jusqu'au bout, mais vous avez vu qu'il y a en fait convergence entre le chanteur Alpha Blondie et son groupe, et puis la position et l'attitude du ministre malien qu'on a entendu avant, c'est-à-dire que cette fatigue par rapport à la politique néocoloniale de la France, elle est maintenant très largement partagée par les équipes dirigeantes. Ce n'est pas simplement un rappeur qui fait des effets de scène et qui manifeste comme ça son sentiment tout seul. Ça, c'est beaucoup plus profond. Effectivement, Alpha Blondie le dit depuis un certain temps, et dès l'instant où ce type de chanson revendicative devient une ligne gouvernementale, effectivement, les choses changent concrètement. Et ça, on en reparlera sûrement pour le Burkina, et probablement aussi, on en reparlera à propos du Sénégal, où là aussi, les affaires évoluent de façon très, très intéressante. Et avant d'en venir à l'Ukraine, je vais faire allusion à quelques petits événements extérieurs, et puis on passera un certain temps sur l'Ukraine. Alors, un petit événement pittoresque qui mérite pas de retenir beaucoup l'attention. Il y a eu une espèce de comédie d'élection présidentielle en Italie. Je dis comédie parce que, d'une part, ça se passe à huis clos, puisque c'est le Congrès, donc le Parlement, qui élit le président de la République au terme de son mandat. Donc il n'y a pas grande campagne populaire. Et en fait, la question qui se posait, c'est de savoir si le président sortant pouvait être reconduit ou pas. Et alors, on était parti, c'est pour ça que je dis une véritable comédie, commedia dell'arte à l'italienne. On a fait croire à l'opinion, peut-être pour la mobiliser un peu sur cette question-là, que M. Mattarella ne se présenterait pas. Alors, il y avait plusieurs hypothèses. Soit il y avait un candidat du camp de M. Berlusconi. Berlusconi, en tant que tel, ne se présente pas, mais il est aujourd'hui encore considéré comme le chef de la droite italienne. Et donc on pensait qu'il y aurait quelqu'un de son camp, appuyé par les néofascistes de Salvini, l'ancien ministre de l'Intérieur du gouvernement Conte précédent. Et ils avaient trouvé, alors c'est là que ça devient la Commedia dell'arte, ils avaient trouvé une dame, alors c'est joli, ah enfin une dame candidate à la présidence et tout. Il se trouve que cette dame, Madame Belloni, était le chef des services secrets en exercice italien. C'est-à-dire, ça aurait été du jamais vu, porter à la tête d'un État le chef des services secrets, surtout quand on sait que les services secrets italiens, et ça c'est une vieille histoire qui est aussi vieux que la République italienne, hein, c'est-à-dire que le chef des services secrets italiens est nommé, ou au moins il est contrôlé, par les États-Unis et la CIA. Il faut savoir que toutes les tensions politiques, l'exclusion pour commencer des ministres communistes du gouvernement italien en 1947, tout ce qu'on appelait la stratégie de la tension, c'est-à-dire tous les attentats à la gare de Bologne, 90 morts, etc., attribués à l'extrême droite, étaient toute une série d'attentats orchestrés par la CIA et par ce qu'on appelait les réseaux Gladio pour éviter que les communistes arrivent au pouvoir en Italie, puisque vous savez qu'ils étaient très forts numériquement, ils étaient très installés partout. Donc, ça aurait été une farce extraordinaire que Madame la chef des services secrets, en fait, créature des États-Unis, arrive à la tête de l'Italie. Ça aurait été, à la limite, trop révélateur. On aurait dit, ben, finalement, c'est les États-Unis qui gouvernent quasiment en direct. Et en plus, ils gouvernent avec des services secrets. Ils ont joué un rôle très particulier dans la lutte contre le mouvement populaire italien et contre les communistes italiens et ont beaucoup de sang italien sur les mains. Ça n'aurait pas été très propre. Et de l'autre côté, alors le deuxième candidat un peu étrange, c'était qu'on pensait que le Premier ministre, M. Mario Draghi, le banquier Mario Draghi, ex-dirigeant de la Banque Centrale Européenne, allait passer à la présidence de la République. Mais en fait, c'était... Alors, ça aurait pu marcher, mais le personnage était un peu gênant parce que, dans la Constitution italienne, le Premier ministre est l'homme qui gouverne. Le président de la République a un rôle plus honorifique, intervient en cas de conflit entre des élections, etc. Et donc, enlever le banquier qui est central dans le processus en cours, c'est-à-dire réorganisation de l'Italie sur des bases dictées par la Banque Centrale Européenne, et subsidiairement par Morgan, Goldman Sachs et tout, c'était gênant puisque le pion qui a été mis en place pour mettre l'Italie sous tutelle de la finance internationale, on l'aurait mis à un poste où il aurait perdu du pouvoir. Donc là aussi, ça a été évoqué, et puis ça n'a pas débouché, parce que c'était pas raisonnable, y compris du point de vue des grands intérêts qui veillent à l'avenir de l'Italie, les intérêts de la bourgeoisie italienne. Et donc finalement, monsieur Draghi ne s'est pas présenté. Et en désespoir de cause, au bout de je ne sais plus combien de tours d'élection qui donnaient rien, monsieur Mattarella, après un simple coup de fil de monsieur Draghi, a dit « bon ben j'accepte de rester ». Voilà. Donc là, la comédie a été jusqu'au bout. Et donc l'acteur qui avait quitté la scène au premier acte est re-rentré au dernier acte. Il est toujours président de la République. Et c'est toujours M. Draghi, l'homme de la Banque Centrale Européenne et des grands capitaux étrangers, qui est à la tête du processus. Processus qui va faire mal, puisqu'il y a des promesses donc, de l'Union Européenne de mettre beaucoup d'argent dans l'économie italienne, qui en a besoin. Elle est endettée comme l'économie française. Mais en échange... Je le rappelle, parce que ça, on ne nous en parlera pas pendant la campagne électorale française, mais l'engagement des banques, la Banque Centrale Européenne et des banques d'aider les pays endettés, la France en est un, est toujours assorti de conditions. Et des conditions, les Italiens les connaissent beaucoup plus que nous, parce que la France a été très, très discret. M. Bruno Le Maire a beau se gargariser avec des chiffres d'évolution du PIB, il ne dit rien. Et il n'est pas prêt de dire quelque chose, sauf si on lui oblige, mais voit pas qui lui obligera. Il ne dit rien sur les sacrifices qu'il faudra faire après pour répondre aux critères de Bruxelles qui n'ont pas disparu. Les critères de Bruxelles, les contraintes de Bruxelles sur le déficit, etc., sont là, dans les cartons. Mais pour l'instant, on ne le dit pas jusqu'au mois de mai. Pourquoi ? Parce que M. Macron est chargé de faire passer la pilule après. Bon, on a bien compris l'opération. Voilà. Ça, c'était bon, un gag. Après, je vais parler de notre gag européen, c'est-à-dire concernant l'Ukraine. Alors, gag parce qu'on a fait monter la température d'une façon extraordinairement importante. Hein, en disant, on était à attendre la date et le nombre de soldats russes qui allaient envahir l'Ukraine. Alors, la Russie, c'est la diplomatie russe et Poutine ont passé leur temps à dire « mais on n'a aucun projet de ce genre-là, simplement on veut que vous nous laissiez tranquilles et que vous ne mettiez pas vos soldats à nos frontières ». Alors ça, on n'a pas répondu là-dessus, mais les chiffres des soldats aux frontières sont connus. Il y a aujourd'hui, à la frontière de la Russie, particulièrement en Pologne et dans les trois républiques baltes, donc le long de la mer Baltique, il y a 30 000 hommes en armes, des armées de ces quatre pays-là, qui sont au bord de la frontière russe. Donc, et ils sont prêts, et ils sont tous dans l'OTAN. Ils sont pas là par hasard, et on leur a dit, si jamais la Russie attaquait, il faut riposter, donc on garde la frontière de ce côté-là. Le long de la frontière du Bélarus également. Bon, et puis il y a, en plus, ça on le dit beaucoup moins, mais c'est la réalité, il y a aussi 10 000 soldats des États-Unis qui sont là au milieu pour orchestrer le tout. Alors la grande astuce, et c'est pour ça que je m'arrête là-dessus, c'est que, à la différence de ce qu'ils font d'habitude, les États-Unis n'ont pas installé de base militaire permanente en Pologne ou en Lituanie ou en Estonie. Hein ? Voilà, parce qu'il n'y a pas besoin, puisqu'en fait, la base permanente, c'est l'armée nationale, polonaise ou lituanienne, et qu'on fait circuler... Alors, il y a des tours, il reste un certain nombre de mois, les militaires américains, avec tout leur Bataclan. Et donc, ils sont là pour encadrer, pour donner les ordres principaux. Et ils ont, en fait, 30 000 harkis, je vais appeler ça comme ça, pour faire comprendre, hein, 30 000 harkis qui sont là pour... exécuter les ordres au cas où il y aurait des ordres. Hein. Ouais. Tout ça, donc, on dit c'est en Europe, mais c'est les États-Unis qui font le tourner, qui font marcher l'affaire, et ils le font d'une façon qui est beaucoup plus subtile que d'habitude, c'est-à-dire d'une part, ça leur coûte moins. Ils ont 1000 hommes, ils ont 10 000 hommes et pas 40 000 hommes, c'est beaucoup moins cher. Ils n'ont pas de base permanente, donc, puisqu'en fait c'est la Pologne qui paye et c'est les Baltes qui payent pour les accueillir sur place, hein. Et c'est eux, en fait, qui décident de ce qui va être fait ou de ne pas être fait. C'est comme ça qu'il faut comprendre la réaction de la Russie qui, encore hier au Conseil de sécurité, a dit « Mais nous n'avons, nous, le droit de mettre nos troupes parce que vous en mettez juste en face, mais pas plus que ça. Hein. » Mais les troupes, alors ils ont dit, les troupes américaines qui sont là et qui, en principe, sont pas simplement des troupes au sol puisque ces manœuvres ou cette présence otanienne fait qu'il y a aujourd'hui des bombardiers porteurs d'armes nucléaires qui circulent le long de la frontière russe. La Russie a beau jeu de dire « Mais attendez, nous, on ne vous menace pas, on est chez nous. Mm-hmm. » Alors c'est un discours sur lequel ils insistent, parce que je pense qu'on est arrivé, et c'est ça que les États-Unis ont tendance à ne pas vouloir comprendre, à une limite. C'est-à-dire que quand une première fois, ben, je rappelle les promesses faites à M. Gorbatchev de dire « L'OTAN, ça ne sert plus à rien puisqu'il n'y a pas l'Union soviétique, donc on ne bouge plus. » Bon, ça a été déjà en 99, on a agrandi. On a fait rentrer la Pologne et quelques autres. Et en 2004, on en a rajouté d'autres, de telle façon que l'OTAN est arrivée à la frontière russe, le seul cas restant pendant étant celui de l'Ukraine. Donc depuis maintenant, la Russie a parfaitement compris que l'objectif, c'était d'aller encore plus loin, c'est-à-dire de faire tomber la Russie, de la découper en morceaux. Je n'en rêve pas, il y a des plans, il y a des dessins qui ont été faits. Il y aurait une Russie de l'Ouest, une Sibérie centrale, une Sibérie orientale. Et ça aurait l'intérêt de découper tous les trésors de la Russie, c'est-à-dire le pétrole, le gaz, il y en a partout, le nickel, l'uranium, etc. Donc avec trois pays, en découpant la Russie en trois morceaux, on a trois pays d'abord assez peu peuplés qui pourraient être contrôlés beaucoup mieux par les intérêts étrangers. La Russie l'a compris, hein, et maintenant elle dit ça suffit. Donc c'est ça qui est en train de se mettre en place dans les esprits. Alors ce qui est intéressant, et j'en parlais à propos de Macron, c'est que la semaine dernière, l'Europe a commencé à dire « oui, mais là, la température monte, et au fond, s'il y a des échanges de coups, on est sur le ring ». La bataille, le combat, il a lieu chez nous, il n'est pas aux États-Unis. Donc les États-Unis suscitent alors un grand renfort de propagande, de discours trompeurs sur l'histoire de la Russie, etc., un combat qui va avoir lieu chez nous et où les victimes seront sur notre terrain. Alors, il y a peut-être quelques soldats des États-Unis, mais pas plus. Et donc il y a eu un début de réaction européenne. Alors la réaction, elle est venue d'abord d'Allemagne, où le nouveau chancelier a dit... faudrait être un peu plus tranquille. Et puis il y a quelques élus qui ont dit « Non, non, attention, là, on va sur un chemin dangereux. La Russie, on a des rapports avec eux. Il n'y a pas de raison. Ils sont tout prêts. Pourquoi ce seraient les États-Unis qui nous dicteraient notre conduite sur le territoire européen ?» Première réaction. Et puis est arrivé Macron, qui est arrivé, alors tout prêt à se montrer sur les tréteaux, à faire son grand numéro de diplomate. Et pour dire, ah ben j'ai rencontré Poutine. Alors ça, c'est assez étonnant parce que il suffit. Il suffit d'un entretien pour que la presse, les médias et tout disent « ça y est, Macron est arrivé, c'est Zorro, quoi. Macron est arrivé, la situation se clarifie ». Macron y est arrivé parce que d'une part, l'Allemagne commençait à regimber en disant « non, attention, où est-ce que les États-Unis nous mènent ?» Parce que lui-même savait ce que la Russie lui a rappelé, je pense, qu'il y a des accords de Minsk qui règlent le problème ukrainien. Ces accords de Minsk ont été refaits deux fois, qui n'ont jamais été appliqués par la partie occidentale, ni par l'Allemagne, qui est un peu honteuse et qui le sait maintenant, ni par la France, qui n'était pas honteuse au point que Macron faisait comme s'il découvrait les accords de Minsk sans les avoir signés lui-même. Alors c'est pas lui, c'est Hollande, effectivement. Mais il sait très bien ce qu'il y a dedans. Et il sait très bien que la consigne était de ne pas les respecter. Parce que ça dérangeait les États-Unis, ils préféraient que ce soit une torchon de papier sur lequel on aurait pu ne pas s'attarder. Et donc Macron fait état des accords de Minsk sans le dire, puisque la France en est signataire et qu'elle est chargée de les faire respecter. Les accords de Minsk, qu'est-ce qu'ils disent sur le fond de la question ? Ils disent que la question des provinces sécessionnistes, je mets ça entre guillemets, donc les provinces de l'Est, du Donbass, donc, cette sécession n'a pas été organisée. Il a simplement été dit dans les accords de Minsk que c'était les populations de cette région-là qui décideraient de leur avenir, pas les mitrailleuses. C'est-à-dire, c'est les citoyens du Donbass qui diront un jour s'ils veulent devenir russes, et à ce moment-là, ils feront une demande d'adhésion, comme a fait la Crimée à la Fédération de Russie, ou bien s'ils veulent rester ukrainiens, à condition d'avoir les libertés. Et les conditions sont claires, mais ils se sont dit que ça serait acceptable dans le cadre d'un État fédéral. Avec plusieurs morceaux dans la République ukrainienne, et puis chaque morceau, le morceau plus à l'ouest et le morceau plus à l'est, ayant une autonomie en particulier culturelle, puisque vous savez que ce qui a mis le feu aux poudres et qui a amené les populations du Donbass à prendre cette position-là, ça a été le fait qu'on leur a interdit, c'est écrit dans les textes de Kiev, du gouvernement actuel, d'interdire de pratiquer leur langue, la langue russe. Or, il faut savoir que ce découpage n'est pas un découpage dont les politiciens ont usufruité les politiciens pour mettre le feu dans la situation. Le découpage de l'Ukraine est aussi vieux que l'histoire de l'Ukraine. Entre l'ouest de l'Ukraine et l'est de l'Ukraine ont toujours eu des destins assez différents. Ils sont rassemblés parce qu'ils ont été rassemblés du temps de l'Union soviétique dans la même république. Mais il faut savoir que les régions ouest de l'Ukraine sont des régions assez proches de la Pologne et qui partagent pas mal de valeurs de la Pologne, et que les régions de l'Est sont plutôt proches de la Russie, qui se sont réunifiées dans le cadre de l'URSS, puis c'était un pays unique, mais qu'au fond, les dissensions sont là. Elles sont là à telle enseigne que tous les résultats électoraux, à toutes les élections qui ont eu lieu depuis l'indépendance de l'Ukraine en 1991, montrent bien qu'il y a deux pays en un seul. Alors si ces deux pays décident de vivre ensemble, il faut qu'ils le fassent sur une base fédérale. Hein, et s'ils décident de ne pas vivre ensemble, ça sera fini de l'Ukraine. Mais ça, c'est les Ukrainiens qui le diront. Et ce n'est pas les mitraillettes. Et ce n'est pas les bombes atomiques de l'OTAN. Ça ne sert à rien, ce genre de... Le problème, il est sûr, il est écrit dans les mœurs, dans les langues, dans la vie quotidienne de la population ukrainienne. Et il faut que ce soit la population ukrainienne qui se décide.
La langue russe, elle est parlée.
Ah, la langue russe, l'est de l'Ukraine parle le russe. Ouais. Et ce qu'on savait du temps du début de l'indépendance ou d'avant, c'était que sur le territoire de l'Ukraine, quand c'était une république socialiste soviétique, on parlait indifféremment les deux langues. Ouais. Et vous pouviez très bien parler l'ukrainien à la maison et parler le russe au bureau ou vice-versa. Ça ne posait pas problème. Mais dès l'instant où on décide d'en faire un problème et de diviser le pays sur ces bases-là, ce pays, il y a une capacité de division qui est réelle. C'est une vieille histoire et tous les gens, les observateurs honnêtes, disent qu'il y a effectivement deux Ukraines. Alors en plus, ça se complique du fait que dans la partie ouest, il y a des fascistes. Ça, ils y sont historiquement, puisque j'ai évoqué la semaine dernière les massacres antisémites réalisés en Ukraine au début de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont été faits par des Ukrainiens de la partie ouest, qui ont assassiné par milliers des Juifs avant les camps d'extermination. Donc ils ont exterminé directement, je parlais du cas de Babi Yar, donc les fosses, etc.
Ils sont soutenus par l'État d'Israël.
Voilà, ouais, et par la Turquie.
Et par la Turquie, voilà. Bien sûr.
Donc, voilà, pour en terminer là-dessus...
Quid du traité entre la Russie et les États-Unis ?
Non, alors, ça avance pas parce que les États-Unis ne veulent pas avancer, parce qu'ils auront beaucoup de peine à signer quelque chose. Alors, ils sont entre deux eaux, c'est-à-dire Biden a des positions verbal un peu plus souple. Et puis on sait que les diplomates qu'ils envoient disent « Mais on a, ça ne nous concerne pas, ça ne nous intéresse pas vos demandes » parce que la Russie leur demande de signer un papier disant que les troupes américaines ne viendront jamais le long des frontières de la Fédération de Russie.
C'est
parfaitement clair. Voilà. Donc, alors, je pense que les négociations vont continuer parce que le camp états-unien est faible, c'est-à-dire il est divisé entre ceux qui voient bien qu'ils vont aller un peu trop loin et ceux qui ont été chargés, c'est leur poste, de Blinken en particulier, le secrétaire du département d'État, qui est chargé de mettre le feu et qui le met aussi souvent que nécessaire. Voilà. Bon, on en reparlera. On remercie beaucoup Yamine. On laisse la place aux copains. Et puis, on espère que voilà, le vent ne soufflera plus sur l'émetteur.
Et
merci.
Je précise qu'on est bien passé en direct, puisque les émetteurs ont été réparés.
Voilà. Bravo aux techniciens.
Voilà. Merci.